Je suis une pute occasionnelle. C'est ça, il faut appeler un chat un chat. Mais je ne vois pas, moi, que c'est quelque chose de dévalorisant. Parce qu'authentiquement, je crois que en se faisant plaisir et en donnant du plaisir lors de ces moments de partage et d'intimité, c'est la chose la plus naturelle du monde, finalement.
Bienvenue dans la saison 2 de Brise-Glace, un podcast du temps qui s'intéresse à tout ce qu'on n'ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent. Quand elle n'est pas au bureau, Isaline, blonde aux yeux verts de 53 ans, aime rédiger et publier des petites annonces coquines. On peut y lire « Courtisane mature atypique, loin des milieux professionnels, d'un excellent niveau socio-culturel, suissesse, cérébrale et intellectuelle, disponible pour des rencontres occasionnelles de grande qualité, uniquement sur rendez-vous. » Ni ses proches, ni son employeur ne savent qu'Isaline vend ses faveurs sexuelles simplement pour le plaisir, pour le frisson. Être maîtresse de sa sexualité, elle l'assume, oui, mais pas au point de faire abstraction de ce que les autres pourraient en penser.
J'ai pas eu énormément d'expérience sexuelle en étant jeune. Je me suis mariée, j'avais 25 ans. J'ai simplement vécu une relation maritale durant un peu plus d'une dizaine d'années, au cours de laquelle je n'ai pas eu d'expérience autre que celle avec mon mari, en fait. J'étais simplement bien.
À quel moment est-ce que vous avez commencé à réfléchir à une autre forme de sexualité hors de cette relation monogame, exclusive avec votre mari ?
Une fois que je me suis retrouvée divorcée, j'ai eu l'impression que là, tous les possibles s'offraient à moi. Et je me suis dit, mais pourquoi me cantonner à une sorte de relation avec un seul homme? J'avais envie de découvrir, de me découvrir. Et c'est là que j'ai commencé en fait à visiter quelques clubs libertins. J'ai eu quelques expériences qui ont été plus ou moins satisfaisantes. À l'époque, c'était dans des boîtes où il y avait énormément de musique et ça fumait beaucoup. Moi, je ne suis pas une grande fanat de musique qui se diffuse dans les boîtes. Il y avait aussi une grande concurrence entre les femmes qui devaient s'habiller très sexy, en faire le plus possible pour aguicher. Ce n'était pas trop, en fait, dans mon état d'esprit. Et surtout, en étant non-fumeuse, j'étouffais dans ces milieux, ce qui veut dire que je n'ai pas continué. Je ne connaissais pas les milieux des saunas. Ça me convenait beaucoup mieux, mais je l'ai découvert beaucoup plus tard, en fait.
Est-ce que vous pourriez nous parler de la première fois que vous avez décidé de mettre une petite annonce ? Comment est-ce que ça s'est passé ?
Ça ne fait pas très longtemps, ça fait moins de 3 ans. C'était juste aux alentours de la cinquantaine. Avant de mettre une annonce, j'ai eu la possibilité une fois, j'ai été approchée dans un de ces saunas par un homme qui m'a demandé si je voulais lui faire un massage et qui était d'accord de me payer pour ça. J'ai été très excitée par cette demande. Bien sûr que, bon, en plus du massage, ça s'est terminé d'une manière où on a eu un rapport sexuel complet en fait ensuite. Et puis, j'ai pris conscience de cette espèce de séduction que je pouvais aussi avoir sur les hommes. Et j'ai eu envie de continuer.
Qu'est-ce qui vous a particulièrement excité dans cette idée d'être payé, si vous deviez le verbaliser ?
Voyez, quand on rencontre un homme dans la rue, c'est sûr qu'il ne va pas de but en blanc proposer de passer un petit moment coquin au lit. Il va bien sûr faire une sorte de cours, il va nous inviter. Et je pense que ça, une femme, elle en a besoin, n'importe laquelle. Elle aime se faire offrir des choses, elle aime se faire cocoler. Et dans le cadre des petites annonces, ce qui est différent, c'est que voilà, les choses sont claires. Je propose un moment d'érotisme à des messieurs qui ont peut-être envie de changement ou qui sont en manque parce que soit ils sont seuls en phase de divorce et puis au lieu de devoir passer par toute une phase peut-être un peu fastidieuse et pas toujours facile non plus pour ces messieurs, une phase de séduction, une phase où on tourne autour du pot, on va se séduire, on va... Eh bien non, là les choses elles sont assez rapidement mises sur table, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de séduction, qu'il n'y a pas de relationnel, qu'il n'y a pas de discussion au préalable. Les choses sont un peu plus rapides et donc ça permet de mettre directement en fait les cartes sur table.
Comment est-ce que vous avez rédigé votre première petite annonce?
Alors, comme j'aime écrire, j'ai toujours pris du soin dans la rédaction, aussi parce que j'avais conscience qu'en rédigeant de belles annonces, j'allais forcément attirer un certain style d'homme. Mon souhait, c'est de ne pas, puisque je ne vis pas de ça, je ne suis pas une professionnelle, mais je me définis en tant qu'occasionnelle. Parmi les messieurs qui me contactent, je choisis ceux à qui je donne suite, en fait. Donc, j'avais compris qu'en rédigeant une belle annonce, j'avais plus de chances de pouvoir avoir des messieurs qui me correspondent.
Et alors, comment vous l'avez écrite ?
Les mots exacts, je ne sais pas. Je me suis un petit peu tâtée pour savoir ce que je pouvais proposer. Je précise toujours que c'est loin des passes rapides parce que comme je ne vis pas de ça, je n'ai pas intérêt à ce que ce soit rapidement fait dès que monsieur a terminé, hop, on se lève et c'est fini. Donc forcément que j'appuyais sur le fait que je le faisais par plaisir, que je ne le faisais pas pour des raisons financières premièrement, même si ça contribuait, et que j'avais envie de donner du plaisir, mais envie d'en prendre. Et à ce moment-là, je crois que, oui, j'avais pris conscience que les messieurs, il y a certains messieurs qui sont égoïstes, qu'on vit, comme on dit vulgairement, tirer un coup, mais il y a beaucoup d'hommes qui aiment simplement tenir une femme dans leurs bras, qui aiment lui donner du plaisir, la voir jouir, et que donc il fallait pouvoir créer un contexte, une sorte de confiance. Et c'est ce que je crois pouvoir donner au travers de la rédaction de mes annonces pour pouvoir en fait attirer des gens qui ont aussi besoin d'avoir pas juste un moment de sexe, mais vraiment de faire l'amour. Ça, c'est quelque chose qui est différent.
Vous vous souvenez du jour où ça a été publié pour la première fois ?
Oui, je crois que je n'étais pas très sûre de si j'allais avoir des réponses. Parce que quand même, en voyant le nombre incalculable d'annonces qu'il y a, des femmes jeunes, des femmes qui demandent peu, des femmes qui peuvent recevoir, des femmes qui sont libres à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, qui font pas forcément les difficiles, qui mettent pas de cadre, pas de limite. Moi qui arrive avec quand même un cadre, c'est pas n'importe où, c'est pas n'importe quand, c'est pas, il y a un certain tarif, ce qui veut dire qu'il y a quand même passablement de limitations. Alors je me suis dit, mais est-ce que je vais avoir du succès, entre guillemets? Et puis j'étais vite rassurée, en sachant aussi que je ne plais pas à tout le monde, parce que tout le monde n'a pas envie d'aller avec une vieille. Et puis qu'il y en a qui ont envie que je passe la nuit avec eux, il y en a qui veulent que je sois la journée là avec eux, alors que voilà, c'est pas dans mes possibles, et que je n'ai pas où recevoir.
Quel est votre cadre en fait ?
Alors mon cadre, c'est la plupart du temps, je donne rendez-vous dans un endroit public, c'est-à-dire dans un sauna, où là je suis libre d'entrer comme n'importe quelle cliente. Après, ce qui se passe entre un homme et moi, ça reste du domaine complètement privé et discret. On se donne rendez-vous en général devant l'établissement, on fait la transaction avant, ça regarde que nous, on entre en couple. Tout le monde n'a pas envie non plus d'aller dans un endroit public. Il y en a qui préfèrent la discrétion d'une chambre. Bon, après, une chambre d'hôtel, ça coûte. Je peux éventuellement concéder à me déplacer dans une chambre d'hôtel. Pour ça, il faut que monsieur soit prêt de payer en plus la chambre d'hôtel. Ma limitation, bien sûr, c'est que je demande des rapports qui soient protégés. Il y en a qui espèrent toujours, surtout avec une occasionnelle, que bah, elle n'aura peut-être pas autant de limites qu'une professionnelle, peut-être qu'elle va se laisser aller. Et puis évidemment, je ne fais pas de week-end, je ne fais pas de nuit, la journée c'est très rare, c'est quand j'ai congé, puis encore, je ne passe pas mes congés à mettre des petites annonces pour pouvoir répondre. Donc voilà, on prend rendez-vous avec moi en fait. Et c'est aussi tout un pan d'hommes qui sont en mesure de différer leur plaisir. Ça veut dire une certaine cérébralité que j'aime et que je recherche. Voilà, le cadre, c'est aussi ça, c'est le fait de devoir attendre. Une des choses encore que je mets comme cadre, généralement, je demande à des hommes de plus de 50 ans de me contacter. Je préfère. Je ne suis pas, comme on dit, une cougar. C'est eu arrivé, par contre, que parce que je mets plus de 50 ans, il y a quelques hommes jeunes qui me contactent, mais qui sont configurés un peu différemment dans leur esprit, puis qui ont une certaine maturité. Alors, eux, ils tentent leur chance. Et puis, j'ai eu parfois quelques belles surprises avec des jeunes. Enfin, des jeunes, j'entends 35 ans.
Qu'est-ce que vous refuseriez de faire ?
Ah, je ne fais pas de sexe anal, par exemple. Je fais un massage prostatique, ça je fais volontiers, mais je ne veux pas, moi, de sodomie. Il y en a qui insistent, hein, qui me disent « Ah, mais c'est très bien, c'est bon, tu devrais essayer. » Bon, moi, ouais, je dis « Mais si tu veux, moi, je prends mon gant de ceinture, et puis si tu veux, si tu aimes... Ah, mais non, moi, je ne veux pas. » Je dis « Bah voilà, c'est la même chose, moi non plus. » Voilà, ça je fais pas. Ouais. Je reçois pas de sperme dans la bouche. Je suis quand même très attentive à ma santé. C'est aussi une indication pour celui qui me reçoit que je vais pas faire n'importe quoi, donc que je n'ai pas non plus fait n'importe quoi avec le précédent ou le suivant.
Et en termes de tarifs, c'est quelque chose que vous stipulez directement dans l'annonce ?
Oui, comme ça, ça laisse aucun doute, même s'il y en a qui font semblant de pas avoir lu. Oui.
Comment est-ce que vous décidez du montant ? Est-ce que c'est par tranche de temps ?
Alors, moi, je trouve qu'une heure, c'est bien. En dessous d'une heure, voilà, il y en a qui m'ont demandé « Ah, mais juste une petite pipe, allez, voilà. » J'ai aucun intérêt de faire quelque chose de vite fait comme ça, au fond d'une voiture. On m'a déjà dit « Mais tu veux pas un plan voiture hein ?» J'ai plus l'âge des plans voiture. J'aime bien les choses bien faites, j'aime bien faire l'amour, j'aime bien donner du plaisir, et je trouve que ça a un certain temps. Il faut faire monter le désir, donc je propose massage pour entrer en contact avec un corps, pour émoustiller, pour prendre la température. Une heure, c'est bien. Au-delà, ça commence à être long. Je dis toujours, c'est pas plus c'est long, plus c'est bon. Non, je suis pas l'apôtre de plus c'est long, plus c'est bon. Donc une heure, ça me convient bien. Et je demande en principe 200 francs quand je me déplace dans un endroit, si je vais à l'hôtel ou si je vais dans un endroit public, en sauna.
Qu'est-ce qui se passe exactement dans ces saunas ? Enfin, ça marche comment ?
Ben, on entre en couple, il y a majoritairement des messieurs, mais puis c'est un endroit où on va... Tout bêtement, il y a sauna, MAM, jacuzzi, il y a des coins, donc des espaces communs, il y a généralement un bar pour pouvoir se restaurer, boire, et puis il y a des petits endroits, des petits espaces privés dans lesquels on peut rentrer, fermer, pour être tranquille. C'est généralement dans un de ces endroits que moi je propose à ces messieurs de pouvoir nous isoler pour garantir l'intimité. C'est pas un bésodrome géant, il n'y a pas un grand matelas sur lequel tout le monde fait tout et n'importe quoi, on n'est pas au vu et au su de tout le monde. On rentre, on passe au vestiaire, on se met nu, il y a une serviette autour de la taille, et puis on va se faire un sauna, un hammam, un jacuzzi. Ça permet de discuter un petit peu, de se caresser, de se toucher, puis ensuite on va dans un endroit plus privé pour pouvoir faire le massage, faire l'amour.
Et on peut s'enfermer ?
Oui, on peut s'enfermer, oui.
D'accord, donc il n'y a pas de risque de voyeurs qui viennent regarder.
C'est possible, il y a des si on veut laisser ouvert, on peut laisser ouvert. Il y a dans certains saunas des coins où il y a des sortes de petites fenêtres ou des petits barreaux qu'on peut fermer ou laisser ouvert, parce qu'il y a des gens qui sont un peu exhibitionnistes ou voyeurs. Donc ça permet de satisfaire en fait à
tous les fantasmes.
À tous les fantasmes.
Est-ce que vous vous souvenez de la toute première fois où vous avez reçu une réponse à cette annonce?
Je me rappelle qu'une de mes annonces n'était pas dans les toutes premières, parce qu'évidemment, il faut que je fasse un petit peu. Au début, je me lance dans l'inconnu, donc je mets des annonces, et puis voilà, je vois que tel style d'annonce, comme ça, ça génère telle et telle réponse, ou tel et tel style d'homme, donc ça, je ne veux pas mettre. Je vois qu'il me pose des questions, donc il faut que je sois beaucoup plus précise. Le plus clair je suis, le moins j'ai à devoir répondre tout le temps les mêmes choses. Alors, j'ai bien compris ce qu'il fallait que j'écrive. Et donc, une de mes annonces, assez au début, comme les hommes aiment la nouveauté, et que j'étais nouvelle, une femme occasionnelle, c'était très recherché, l'air de rien, parce que ils en ont parfois un peu marre, des professionnels, bon voilà, pour toutes sortes de raisons. J'ai eu 180 demandes sur une seule annonce.
180.
J'ai répondu à ces 180 demandes, mais je n'ai pas pu rencontrer, bien entendu, 180 messieurs. Mais j'ai eu 180 demandes, ouais.
Et le moyen de vous contacter, c'est par mail?
Oui, je ne donne pas mon numéro de téléphone parce que je n'ai pas de ligne dévolue à mes activités.
Donc tout ça se fait en parallèle de votre activité professionnelle?
Oui, je travaille un pourcentage qui n'est pas 100%, un peu moins de 100%, ce qui me laisse un petit peu de temps.
Dans quel secteur, sans donner de détails, mais en gros?
Dans le médical.
Et à aucun moment, vous avez parlé de cette activité parallèle à vos proches ou à des amis?
Oui, mon ancien compagnon, oui, il était au courant. Comme c'est quelqu'un qui est assez large d'esprit, donc ça ne lui posait pas de problème. Et puis, j'ai une amie qui est au courant. Moi, elle est libertine, donc elle pratique le libertinage avec son mari. Bon, tout à fait ouverte. D'ailleurs, je crois même qu'elle est très excitée par ça, parce que ça la titille.
Et pourquoi n'avoir même pas essayé d'avoir cette conversation avec d'autres?
Ah, c'est quand même quelque chose de délicat. J'ai deux attitudes face à ça. Parfois, j'aurais envie de pouvoir le dire. Allez, c'est quelque chose qui est normal, que moi je vois comme normal. C'est-à-dire que prendre du plaisir, en donner. Quoi de plus normal? La sexualité, c'est pas sacré, c'est précieux, c'est quelque chose que je fais avec sérieux, oui, parce que c'est pas des clients, ce sont des hommes que je rencontre. Voilà, je pense qu'on est un peu compliqué, un peu coincé. J'aimerais pouvoir le partager. En même temps, ça fait partie de ma vie privée. J'ai pas besoin, disons, de l'étaler. Tout le monde ne va pas parler de la manière dont il fait l'amour, la manière dont... Bon, peut-être que c'est comme ça dans notre société, mais pas dans une autre. Or, je vis dans celle-ci, je suis évidemment soumise à des contraintes et certaines lois, et c'est un peu la loi du silence. Je ne suis pas certaine que ce serait très bien accueilli, soit de mes collègues ou même de ma famille, si je disais ça. Peut-être que le regard serait un petit peu tordu ou peut-être même consterné, comme si à partir du moment où j'allais dévoiler cette partie de ma vie, j'allais avoir une étiquette.
C'est quoi l'étiquette qui vous fait le plus peur?
Quand on entend quand même parler les gens de la prostitution, des femmes qui gagnent leur vie en, entre guillemets, vendant leur corps, je n'aime pas ce terme, mais c'est pas toujours très élogieux.
Mais vous, c'est pas de la prostitution?
Si, c'est une forme de prostitution, mais c'est occasionnel, hein, occasionnel, ouais. Oui, c'est ça, il faut appeler un chat un chat. Je suis une pute occasionnelle. Ça peut paraître fort comme terme, mais c'est ça. Mais je ne vois pas, moi, que c'est quelque chose de dévalorisant. Parce qu'authentiquement, je crois que en se faisant plaisir et en donnant du plaisir lors de ces moments de partage et d'intimité, c'est la chose la plus naturelle du monde, finalement. Je n'offre pas d'amour, dans le sens où c'est pas de l'amour, c'est un temps d'érotisme, un temps de partage, un temps de plaisir.
Qui sont vos clients, d'une façon générale ?
Alors, ils sont des hommes matures, suisses, d'un bon niveau socio-culturel. Il y en a plusieurs. Il y a des messieurs qui viennent parce que ils sont des grands jouisseurs de la vie et qui ne se posent pas trop de questions. Ils ont envie de se faire plaisir et on y va. Avec cela, c'est vraiment facile d'entrer en contact, d'établir une relation. Les choses sont claires, ils ne vont pas par 36 chemins. Et puis, on se rencontre, on passe un très bon moment ensemble. Et puis, des fois, on se revoit. Il y en a d'autres qui sont très réticents à l'idée de contacter une prostituée. Le fait que ce soit inoccasionnel, qu'elle soit mature, qu'elle soit suissesse, ça les rassure un peu. Et ça les déculpabilise peut-être, mais ils viennent un petit peu quand même avec beaucoup de culpabilité. Et ceux-là, ils sont plus difficiles d'approche parce qu'ils sont moins détendus, ils sont plus dans le contrôle. Alors c'est à moi de savoir les mettre à l'aise et de leur dire que ben, c'est une chose normale de vouloir se faire plaisir et puis qu'il n'y a pas de danger non plus. Parce que je crois qu'ils sont sur leur réserve, ils ont peur du jugement finalement. Ils ont peut-être un grand gendarme au-dessus d'eux. Ils vont et ils viennent très vite, et ils s'en vont très vite en fait. Les corps parlent beaucoup. Moi j'ai eu des messieurs qui semblaient souffrir dans leur corps, et quand on les touchait, puisque je commence toujours par un massage, j'avais vraiment l'impression d'une grande souffrance dans le corps. Et à ce moment-là, le massage, pour essayer de détendre, pour essayer de procurer du bien-être, aussi par la façon que j'ai de pouvoir entrer en lien avec, c'est un état d'esprit finalement. Je ne crois pas qu'on puisse l'apprendre. Si on n'aime pas les gens, si on n'aime pas ce qu'on fait, on va le faire mécaniquement. Moi, j'aime ce que je fais, sinon je ne poserai pas les annonces, puisque je ne dois pas vivre de ça. Et donc, quand je suis en lien avec quelqu'un, je ne rencontre pas un client, je rencontre un homme. Je dis souvent aux messieurs que je rencontre, finalement, c'est une question de communication. Mais beaucoup dans la vie, pas seulement pour la sexualité, mais aussi dans la sexualité, c'est important de communiquer. Voilà comment moi, en tant que femme, je fonctionne. Je ne suis pas comme la voisine, je ne suis pas comme ta femme, je ne suis pas comme ta précédente petite copine ou comme, je sais pas, ta maîtresse. Je fonctionne comme ça. Et oser le dire. J'aime que tu me touches comme ça. Ici, là, ça ne me fait pas plaisir. Et à ce moment-là, je suis étonnée de voir comment les hommes sont preneurs. Et c'est la même chose. Je cherche à savoir ce qui fait plaisir à un homme. Moi, je l'écoute, je l'entends, au bout des doigts, en fait. Au bout des doigts, ça se sent. Il faut être vraiment très attentif au plaisir de l'autre dans la communication verbale, mais aussi non-verbale.
Et vous mentionniez le fait que vous recherchiez aussi à prendre du plaisir vous-même.
Oui.
Est-ce que c'est le cas à chaque fois ? Est-ce que vous
avez... Pratiquement. Pratiquement à chaque fois. Oui.
Vous arrivez de simuler ?
Je n'ai jamais simulé. Non. Je préfère dire, je suis excitée, ce qui est vrai, mais je ne parviens pas à jouir pour toutes sortes de raisons que je ne peux pas expliquer. Je ne suis pas une machine et ça peut aussi arriver qu'un homme ne parvienne pas à jouir. J'en fais pas un plat et lui non plus. À partir d'un certain âge, on sait que voilà, on n'est pas des machines.
Est-ce qu'il y a eu des expériences malheureuses qui vous ont presque donné envie d'arrêter ?
Alors, je n'ai pas eu d'expérience malheureuse qui m'ait donné envie d'arrêter. Par contre, ce qui m'a parfois donné envie d'arrêter, c'est le manque de sérieux de certains messieurs quand ils fixent rendez-vous, qu'ils ne viennent pas, qu'ils posent des lapins ou qu'ils changent de plan à la dernière minute. Je ne suis pas assise sur un tabouret en attendant que on me sonne, puis que j'accours. La démarche avec moi, elle est complètement différente. Donc, comme on prend rendez-vous, moi, j'ai prévu ce rendez-vous. Je l'ai planifié, organisé, je me suis préparée. Tout d'un coup, quelqu'un qui me pose un lapin, je dois avouer à peu près la moitié des rendez-vous fixés, ça finit. Pas forcément en lapin, quelques-uns, oui, mais en rendez-vous qui sont annulés, des gens pas très sérieux. Peut-être que c'est dans l'ambiance comme ça où, à l'heure actuelle, on fait les choses et on prend pas vraiment les gens au sérieux. Ça, avec ça, j'ai de la peine. Donc oui, ça m'a donné envie parfois d'arrêter, ça m'a franchement agacée.
Est-ce que vous êtes dans une relation actuellement ?
Non, pas actuellement, non.
Si vous rencontriez quelqu'un qui vous plaisait, est-ce que l'acceptation de cette activité parallèle, ce serait une sorte de condition sine qua non ?
Non, du tout. Je peux m'arrêter demain, j'en ai pas besoin pour vivre, c'est pas une drogue. Maintenant, je me dis oui, c'est vrai, c'est sympa, ça permet de faire des petits extras, ça permet d'être quand même beaucoup plus à l'aise financièrement, mais ça n'est pas une condition, non, pas du tout. Je m'imagine à la fois continuer, à la fois pas continuer. Je peux même dire que j'arrive sur la fin. C'était une excitation terrible au début. Maintenant, c'est un petit peu moins excitant. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai beaucoup moins consacré de temps à mes rendez-vous. J'en ai beaucoup moins. Je vis un petit peu sur mes réserves. Je mets beaucoup moins d'annonces. Donc, j'ai un petit carnet d'adresses. Et de temps en temps, on me pose la question si je suis disponible, c'est généralement des messieurs que je connais. Puis il faut que ça reste quand même quelque chose d'assez piquant, d'assez excitant. Parce que si je devais mettre des annonces et y aller tous les jours, à l'heure actuelle, ça ne serait pas très agréable pour moi, je dois dire.
Comme c'est une activité entre guillemets secrète, dont vous parlez très peu, est-ce que vous avez eu peur parfois de tomber sur des gens qui n'avaient peut-être pas donné leur vrai prénom et en fait de tomber sur quelqu'un que vous connaissiez, est-ce que c'est arrivé ?
Oui, et ça m'est arrivé une fois de rencontrer dans un de ces clubs un collègue, mais on n'est pas mort, ni lui ni moi.
Vous aviez décidé de ne pas en parler, ou est-ce qu'il y a eu une sorte de conversation ?
Alors, je crois que tacitement, soit il ne m'a pas vu, mais ça m'étonnerait quand même. Je crois qu'il a mis son nez dans son casier, moi j'ai aussi fait pareil, et puis on s'est revus sur la place de travail. Bah, ni lui ni moi, on en a parlé. De toute façon, c'est vraiment un endroit très particulier où il n'y a absolument aucun souci à avoir de discrétion. À partir du moment où on franchit l'établissement, forcément, ça ne va pas se savoir à l'extérieur. Parce que si j'avoue que j'ai vu un tel dans cet établissement, c'est que j'y étais. Je me scie aussi, en quelque sorte. Il n'y a pas de problème.
Quand vous revoyez certains de ces hommes plusieurs fois, est-ce que vous aviez le sentiment que certains s'attachaient à vous ou voulaient autre chose, voulaient un peu plus en fait ?
Oui, c'est quasiment systématique. C'est pour ça que j'aime bien revoir quelques personnes parce que ça m'évite de devoir remettre des annonces et c'est bien d'avoir un petit carnet. Mais je dois systématiquement temporiser, essayer de faire en sorte de ne pas leur donner l'illusion qu'ils ont une place privilégiée. Mais ils cherchent tous, hein. C'est assez bizarre, hein, parce qu'en même temps, ils veulent du nouveau, ils veulent du changement, ils ont peut-être une relation à la maison, et puis ils en ont marre, ils veulent du changement, et puis ils cherchent un peu une relation, entre guillemets, stable, avec quelqu'un d'autre, en plus, en parallèle. Donc, ils auraient envie d'avoir une place privilégiée. Peut-être que je leur accorde la gratuité parce que je serais leur maîtresse et qui serait mon amant préféré. Oui, ils essayent. C'est toujours le danger, en fait.
Et vous ? Vous vous attachez pas ?
Ça m'est arrivé une fois. J'avoue que c'était pas une bonne idée. Oui, c'est un danger, forcément, hein, parce que à ce moment-là, on ne sait plus trop sur quel pied danser. Puis non. On se met un cadre, on se met des limites. On ne sort pas de ce cadre et de ces limites, parce que ça peut vite être quelque chose qui nous bouffe, hein, l'air de rien.
Pourquoi est-ce que vous pensez que dans la société dans laquelle on vit, il y a encore un tel tabou autour des schémas non normés, c'est-à-dire des relations monogame, exclusive avec un seul partenaire? Pourquoi est-ce qu'on a tant de mal à admettre que ça puisse exister, même si c'est pas pour nous-mêmes?
Je peux pas vous dire. Je pense qu'on est très ambivalent. Même moi qui vous parle, je mets des annonces, mais peut-être qu'au fond de moi, j'aimerais avoir une relation avec un homme, enfin assez classique. Une partie de moi a aussi envie de ça. Et peut-être que je rencontre la plupart des messieurs qui sont en couple, ils aiment vraiment leur femme. Ils voudraient pour rien au monde détruire la relation qu'ils ont. Pourtant, ils ont besoin de piment, ils ont besoin de... Donc voilà, c'est cette ambivalence qui fait que on a à la fois envie d'avoir une relation qui compte et quelqu'un pour qui on compte, puis en même temps de se dire, mais est-ce que c'est ça? Est-ce que finalement, pourquoi se restreindre? Et je pense qu'on est tiraillé tout le temps. On a intégré cette ambivalence, elle fait partie de notre culture et de notre société. Peut-être que quelqu'un qui viendrait d'une autre culture pourrait nous dire « Ah, mais là, vous êtes complètement ambivalent. Comment vous faites pour vivre avec cette espèce de dichotomie ?» Et pourtant, ben, elle est intégrée, donc on la voit même plus, hein, parce qu'elle est vraiment complètement intégrée, même si parfois on vit pas toujours très bien, puisque des messieurs se sentent très coupables à l'idée de faire le pas, de répondre à une annonce telle que la mienne, ou que même moi, j'ai mis toutes ces années avant de comprendre que finalement, il n'y avait pas mort d'homme de faire ce que je fais maintenant.
Qu'est-ce que vous diriez à la personne qui trouverait ça complètement inapproprié ou porterait sur vous un jugement?
Le danger, c'est de vouloir se justifier. Alors, comment faire pour ne pas tomber dans ce piège de la justification? Est-ce que c'est possible de faire entendre quelque chose d'aussi complexe, en fait, quand même, à quelqu'un qui est peut-être criblé de dogmes, qui a l'impression qu'on ne peut pas faire ça avec n'importe qui? Des fois, je me dis aussi, tu connaissais pas cet homme il y a 10 minutes et te voilà nu avec lui. Voilà, ça peut être aussi quelque chose d'assez bizarre. Mais au fond, quoi de plus normal que la nudité, que l'amour? Faire entendre ça à quelqu'un qui a déjà un rapport au corps, à son propre corps ou à son propre plaisir, très compliqué, ça va pas être possible. Ça va pas être possible.
Et qu'est-ce que vous vous diriez à vous-même si vous pouviez vous parler à la personne que vous étiez le premier jour où vous avez mis cette petite annonce? Vous lui diriez quoi?
Ce que je lui dirais maintenant? Eh bien quoi, tout était si simple finalement.
Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Brise-Glace. Je suis Célia Héron. Cet épisode a été réalisé en collaboration avec Virginie Nussbaum et monté par Adrien Samakiyablou. Pour découvrir tous les autres, rendez-vous sur la page letemps.ch/podcast ou sur vos applications d'écoute. Et puisque vous êtes encore là, j'en profite pour vous encourager à aller découvrir RAFU, un podcast du temps qui fait mordre la poussière aux clichés qui collent au basque des sportives, proposé par Pascaline Sordet. À dans 15 jours!